Et dans ce journal, on revient sur l'interview de Nahima Temari hier sur notre antenne. On fait aussi un tour du côté de Fa à la mairie pour vous parler des 40 ans de mandature d'Oscar Temaru avant d'aller à l'aéroport. Le journal de 7h, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous.
Nahima Temari est venue hier nous parler de sa feuille de route.
Oui, la ministre de la Jeunesse et des Sports qui était l'invitée de la rédaction dans votre journal de midi. Elle a donc parlé de la préparation de cette fameuse feuille de route en matière de jeunesse. Un schéma directeur qui, après les assises de samedi, devra encore attendre 6 mois avant d'être présenté aux associations et aux élus. Le temps d'amasser des données de terrain, de préparer des projets concrets pour les 16-30 ans notamment, le temps aussi de coordonner les plans avec les autres membres du gouvernement.
Demain, il sera question de créer un groupe de travail qui va permettre à tous les ministères, à un moment donné, de venir mettre carte sur table pour qu'on puisse avoir tout simplement cette vue d'ensemble. On se rend compte également, après 6 mois de nomination, que bien souvent, on a du mal à communiquer avec notre population parce que quand on est enfermé, cloisonné dans un univers administratif, eh bien clairement, on a un problème de langage.
Et mieux communiquer justement, c'est aussi un défi du gouvernement sur le sujet de la Tour des juges, dossier brûlant depuis quelques semaines et qui s'est encore enflammé vendredi quand la barge du chantier a heurté dès son premier passage sur le site des patates de corail du lagon de Teahupo, un incident qui a forcément fait réagir la ministre.
J'ai commencé par m'excuser de quoi ? M'excuser que les consignes qui sont clairement données sur le plan stratégique ne soient pas forcément appliquées ou suivies sur le plan opérationnel. Après, il faut remettre tout ça dans le contexte. On subit des pressions à tous les niveaux depuis plusieurs semaines et les techniciens donnent tout ce qu'ils peuvent. Mais ça n'empêche qu'il y a eu un raté. Il n'est pas question de se dédouaner. On assume.
Alors assumer oui, mais poursuivre le travail aussi. La tour en aluminium version allégée est toujours au cœur du projet du gouvernement. Il serait possible pour la ministre de l'installer avec des dommages limités pour l'environnement. Pour ça, les réunions techniques s'enchaînent depuis vendredi et la dernière a eu lieu hier après-midi. Le chantier ne reprendra qu'une fois toutes les précautions prises, c'est ce que nous précise Nahima Temari. Reste une grande incompréhension au PK0. Pourquoi la tour en bois est aujourd'hui déclarée trop dangereuse alors qu'elle a été utilisée en juillet ? La réponse pour la ministre, ce sont les études qui ont fait prendre conscience du risque.
Quand le président Mutahi Broderson dit « moi je ne prends pas cette responsabilité », c'est pas « je veux pas porter la responsabilité », c'est « je ne veux pas mettre des vies en danger ». À côté de ça, et en parallèle, on est d'accord, la tour qui a été montée, démontée toutes ces années, elle a tenu. Mais n'oublions pas qu'elle s'est déjà couchée dans des conditions différentes. Donc quand tout va bien, tout le monde est content. Le jour où ça se passe pas bien, on fait comment ?
Voilà, toute l'interview de Nahima Temari est à retrouver en vidéo, c'est sur notre page Facebook.
Et justement, à propos de cette tour, la Fédération internationale de surf salue la suspension des travaux.
Oui, l'ISA qui a salué hier la décision du gouvernement dans un communiqué. L'institution qui ajoute qu'elle invite, je cite, à intensifier les discussions pour examiner toutes les options possibles. C'est la première fois que la Fédération internationale de surf prend la parole dans ce dossier.
À Paris, la cour d'appel a prononcé la relaxe de Gaston Floss.
Gaston Floss qui avait été condamné en première instance à 6 mois de prison ferme pour avoir omis de déclarer 175 millions d'avoirs à la fin de son mandat 2014 à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Gaston Floss qui reste encore inéligible du fait de ses condamnations définitives dans l'affaire des citernes d'Erima et dans celle de son inscription sur les listes électorales de Papété.
Et puis retour au Fénois pour vous parler de cette nomination.
Oui, une nomination attendue depuis plusieurs mois, celle du nouveau président directeur général de l'OPT. Et nous vous l'annoncions hier, Mutahi Broderson a choisi Hina Delva. L'actuelle directrice commerciale et marketing de EDT Engie n'est pas une inconnue complète à l'OPT, puisqu'elle y avait officié en tant que directrice de la communication et directrice de cabinet de l'actuel PDG Jean-François Martin. C'était entre 2015 et 2017. Alors ce choix doit encore être confirmé par l'Assemblée en commission de contrôle budgétaire, à moins que le gouvernement ne choisisse une nomination temporaire, auquel cas ce débat devrait avoir lieu d'ici 6 mois. Et du débat, il pourrait y en avoir, puisqu'en interne à l'OPT, les syndicats penchaient plutôt pour Maria Noué, juriste en chef et secrétaire générale actuelle de l'OPT. Du côté de la majorité Tavini, cette candidature était aussi appréciée, comme celle par exemple de Roland Bopp, ancien directeur de cabinet d'Oscar Temaru et actuel directeur de l'environnement de la mairie de Faa. Dans les milieux économiques, en revanche, on aurait préféré voir Moetei Brotherson choisir Damien Charita, un entrepreneur métropolitain des télécoms qui travaille depuis longtemps avec le groupe OPT.
Afa, les festivités pour les 40 ans de mandat d'Oscar Temaru débutent vendredi.
Oui, un programme qui va s'étaler sur une semaine et que vous pouvez retrouver sur notre site radio1.pf. Alors, lors de la conférence de presse de présentation hier, le maire de Faa s'est contenté de se remémorer quelques anecdotes. Il s'est notamment souvenu du cyclone Véena qui a sévi lors de sa première année de mandature. Mais il est surtout revenu sur des sujets qui font sa fierté, comme la création de la cuisine centrale, le développement des infrastructures sportives, mais surtout l'opération à risque qui permet de fournir aujourd'hui les administrés de la commune en eau potable. Il remercie Dieu de l'avoir accompagné. Écoutez.
Merci Seigneur, parce que 40 ans de gestion d'une commune comme Faa, son aide à lui, c'est pas possible. C'est des risques énormes. Je pense par exemple l'eau qu'on est allé chercher du côté de la Tipperui. Aucune entreprise privée ne voulait faire ces travaux-là. Et j'ai dû demander aux employés de la commune, on y va. 2 ans de travaux, le soir je ne dormais pas. Ah oui, parce que moindre erreur, c'est fatal. Et nous sommes arrivés, on a 7 eaux-là aujourd'hui dans notre réservoir de Faa.
Et des petites victoires et des anecdotes comme celle-là, l'indétrônable Tavana en a plusieurs dizaines en tête. Après avoir passé plus de la moitié de sa vie à travailler pour sa commune, il va donc être célébré à 79 ans du 8 au 17 décembre prochain. Au programme, un défilé, des expositions, des jeux et des chants, mais aussi des animations au Faré artisanal de l'Hôtel de Ville et au Motu Ovini.
On reste à Faa où s'est tenue cette réunion autour des ressources humaines du pays.
Ah oui, les référents en RH des administrations du pays étaient réunis hier pour faire le point sur les projets en cours, action qui s'inscrit dans la dynamique du programme de refonte de la politique ressources humaines du gouvernement. L'objectif général, c'est d'optimiser le travail des agents qui pourraient, selon eux, être plus performants. Et il est notamment question de moderniser les services. Écoutez.
Nous, on a 2 grands enjeux. De réduire tant que possible toute la paperasse administrative parce que c'est pas sur cette dimension-là que la fonction RH est le plus intéressante. Et pour justement se concentrer sur l'humain, sur le talent, arriver à mieux recruter, arriver à mieux accompagner, arriver à mieux faire évoluer le collaborateur au sein de la fonction publique. Et c'est ça notre ambition.
Marine Noguier au micro de Vaïtiaré Pérère, à qui elle explique que pour atteindre cet objectif, la direction a besoin de points de relais positionnés dans chaque service. Alors partie prenante de cette refonte, ils sont ainsi missionnés pour aider à décliner des actions dans chaque service. Des actions qui devront notamment répondre à une grave problématique, celle du recrutement.
Aujourd'hui, la première chose qui me vient, c'est vraiment l'attractivité de la fonction publique. On a des difficultés à pourvoir des postes sur les métiers à haute valeur ajoutée, donc sur le secteur de la santé, les ingénieurs, on manque cruellement d'ingénieurs, des juristes, des fonctions RH, toutes ces fonctions qui sont ouvertes à partir d'un niveau Bac plus 5 et plus, on a beaucoup de mal à les faire venir et ensuite à les faire rester.
Et pour rappel, aujourd'hui, l'administration publique compte 8500 agents. L'idée est donc de faire mieux, mais avec ce même effectif.
Et on s'intéresse maintenant à l'aviation régionale.
Oui, et on regarde les avions d'Air Calin. La compagnie calédonienne l'avait annoncé au mois d'août. Ce sera une réalité ce matin. Tahiti et Nadi aux îles Fidji seront reliés par la compagnie qui, une fois par semaine, va y faire escale sur le chemin de la Polynésie. Alors, le premier vol vient de décoller de Tahiti Faa à 7h. Il lui faudra 5h05 pour rallier la capitale de Fidji. Le vol retour qui part le mercredi mais qui arrive le mardi soir est un peu plus rapide avec 4h40 de vol. Une nouveauté donc dans le ciel du Pacifique et un gain de temps certain puisqu'il fallait jusqu'ici aller jusqu'à Auckland pour embarquer sur un second vol pour Fidji. Outre ses qualités touristiques, l'archipel est le siège de nombreuses organisations régionales et internationales comme le Forum des îles du Pacifique par exemple ou encore la représentation de l'Union européenne.
En Calédonie justement et pour finir, une réunion au sommet s'est achevée hier.
Oui, les ministres de la Défense et les hauts responsables civils et militaires d'Australie, du Chili, de Fidji, de France, de Nouvelle-Zélande, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Tonga, mais aussi les observateurs du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis étaient réunis à Nouméa. C'était pour la 8e réunion annuelle des ministres de la Défense du Pacifique Sud. Alors les parties prenantes ont pris des engagements de coopération et de coordination renforcés dans la région par la mise en œuvre notamment de différents dispositifs et des projets communs. Cela concerne notamment les catastrophes d'origine climatique, la demande croissante de réponses rapides en matière d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe naturelle, ou encore la sécurité maritime ou la criminalité internationale. À noter qu'en parallèle de cette réunion, une manifestation d'indépendantistes kanaks a rassemblé environ 1500 personnes dans les rues de Nouméa hier. C'était notamment pour protester contre la militarisation de la Nouvelle-Calédonie. Voilà une petite actualité régionale pour terminer cette édition. Le retour de l'actualité, ce sera à 7h30 avec votre revue de presse locale.
Merci Valdemar et donc à tout à l'heure.